Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié pour la première fois en 1952. Images et symboles, essai sur le symbolisme magico-religieux, rassemble des études de Mircea Eliade, historien des religions, consacré aux formes par lesquelles les sociétés donnent sens au monde et à leurs propres conditions. Ce livre ne propose ni un dictionnaire de signes, ni une histoire linéaire des croyances. Il examine des ensembles symboliques précis, tels que le centre, le temps, les liens, les os et les coquillages, afin de dégager les structures religieuses qui les organisent. Pour Eliade, images, mythes et rites ne relèvent pas seulement de la fantaisie ou de conventions culturelles, ils révèlent des modalités fondamentales de l'existence humaine. Leur persistance à travers des civilisations très différentes permet de comprendre comment les humains pensent le sacré, la mort, la renaissance, la délivrance et leur insertion dans le cosmos, dense, comparatif et souvent exigeant. Cet essai expose aussi la méthode eliadienne, interpréter les symboles dans leur relation avec les mythes, les pratiques rituelles et les expériences existentielles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pensée symbolique comme accès aux structures profondes de l'existence. Eliade part d'une thèse directrice, la pensée symbolique est constitutive de l'être humain et ne se réduit pas à un stade primitif de la connaissance. Elle précède, accompagne et déborde la raison discursive. Une image religieuse ne vaut donc pas seulement comme décoration, allégorie arbitraire ou survivance folklorique. Elle rend pensable une expérience difficile à enfermer dans un concept, par exemple le rapport entre la vie et la mort, le monde ordinaire et une réalité transcendante, ou le désir de recommencement. Cette position explique pourquoi Eliade met en regard des matériaux très éloignés dans le temps et l'espace. Il cherche moins à établir une filiation historique entre toutes les traditions qu'à identifier des cohérences de sens. Le symbole du centre, par exemple, peut apparaître dans des cosmologies, des sanctuaires ou des récits sans que ces occurrences soient historiquement dépendantes les unes des autres. La méthode comporte une ambition humaniste, étudier les expressions religieuses aide à connaître l'homme dans sa totalité, y compris ses dimensions imaginatives et spirituelles. Cette universalisation est féconde pour lire les continuités entre mythes archaïques, rites et créations culturelles. Elle demande toutefois une lecture attentive, car elle privilégie les formes récurrentes plutôt que les déterminations sociales et politiques propres à chaque contexte. Deuxièmement, le symbolisme du centre et la nécessité de orienter le monde dans études consacrées au centre. Eliade analyse une figure largement attestée dans les religions, un lieu privilégié, relie les différents niveaux du cosmos et rend le monde habitable. Montagnes sacrées, arbres cosmiques, piliers, temples ou axes du monde peuvent remplir cette fonction. Le centre ne désigne donc pas simplement un emplacement géographique. Il représente un point de communication entre la terre, le ciel et parfois le monde des morts, ainsi qu'un lieu où ordre peut être fondé ou restauré. Eliade relie cette structure aux rites de fondation, aux pèlerinages et aux parcours initiatiques. S'installer dans un espace, bâtir une maison ou consacrer un sanctuaire peut alors répéter symboliquement la création du cosmos, on transforme un espace indifférencié en monde organisé. La portée du thème est existentielle autant que cosmologique. Chercher le centre revient à chercher une orientation face au désordre, à la dispersion et à la contingence. Eliade ne présente pas cette logique comme une doctrine identique partout, mais comme une configuration symbolique susceptible de prendre des formes diverses. Son analyse permet ainsi de comprendre pourquoi certains lieux rituels concentrent tant de récits, de gestes et de valeurs. Ils ne sont pas seulement sacrés par décision institutionnelle, ils matérialisent une vision ordonnée de la réalité. Troisièmement, temps cyclique. Éternité est sortie de la durée dans les traditions indiennes. Le chapitre sur les symbolismes indiens du temps et de l'éternité examine une opposition majeure entre la durée vécue, marquée par usure et le changement, et une réalité qui échappe au devenir. Eliade immobilise des représentations indiennes du temps cyclique, dans lesquelles les destructions et recréations du monde ne constituent pas de simples catastrophes, mais des renouvellements de ordre cosmique. Cette perspective diffère fortement d'une conception moderne du temps comme progression irréversible. Elle permet de comprendre que le salut ne signifie pas nécessairement amélioration de l'histoire, il peut viser une libération à égard de la condition temporelle elle-même. Eliade accorde une place importante au yoga, non comme technique de bien-être au sens contemporain, mais comme discipline orientée vers une transformation de la conscience et une sortie de la temporalité ordinaire. Le chapitre montre ainsi que les doctrines, les mythes et les pratiques ne doivent pas être séparés. Les récits cosmiques donnent une intelligibilité aux exercices ascétiques, tandis que les exercices cherchent à rendre effective une possibilité annoncée par la cosmologie. Cette analyse éclaire aussi la prudence nécessaire dans les comparaisons interculturelles. Les mots « temps », « éternité » et « liberté » semblent familiers, mais ils prennent ici une signification liée à la transmigration, au karma et aux voies de délivrance propres aux traditions indiennes. Quatrièmement, le dieu lieur et les nœuds comme figure de contrainte et de délivrance. Avec le thème du lien, Eliade étudie un complexe symbolique où cordes, nœuds, entraves, ligatures et enchaînements renvoient à des puissances religieuses et magiques. Il rapproche notamment des matériaux indo-européens pour montrer la polyvalence de ces images. Lié peut exprimer autorité divine, protection rituelle, ensorcellement, maladie, immobilisation ou destinée. Inversement, délié peut signifier guérison, purification, délivrance ou accession à une condition nouvelle. Cette ambivalence empêche de réduire le nœud à une simple métaphore de la prison. Le lien est aussi ce qui attache les êtres les uns aux autres et les inscrit dans un ordre invisible. Pour Eliade, la richesse de ce symbolisme vient de son rapport à une expérience fondamentale homme se sait limité, exposé à des forces qui le dépassent et désire se défaire de certaines contraintes. Le thème rejoint ainsi les rites initiatiques et les représentations du salut, où une libération doit être obtenue par une transformation plus profonde que la suppression d'un obstacle concret. La démarche comparative est ici particulièrement visible. Elle cherche des correspondances fonctionnelles entre vocabulaire, mythes et pratiques, sans dissoudre entièrement leurs différences. Le lecteur découvre comment un objet banal, la corde ou le nœud, peut condenser des conceptions de la puissance, du malheur et de la liberté. En dernier lieu, coquillages et histoire, la permanence des images de régénération. Les études sur les coquillages et sur les symbolismes aquatiques élargissent enquête à des objets et des éléments dont la signification religieuse paraît souvent discrète. Eliade montre que les eaux sont fréquemment associées à origine, à la dissolution des formes et à la régénération. Elles peuvent figurer la matrice de la vie, le retour à un état indifférencié ou la possibilité de recommencer. Cette logique aide à interpréter les mythes de déluge. Les immersions rituelles et le baptême, malgré leur contexte doctrinaux distincts, ils peuvent mobiliser une même valeur de purification et de recommencement. Les coquillages sont étudiés dans un horizon voisin en raison de leurs associations récurrentes avec eau, fécondité, naissance et puissance féminine. Eliade ne soutient pas que chaque emploi de ces motifs possède exactement le même sens. Son point est que les nouvelles significations historiques se superposent à des structures symboliques antérieures sans les abolir nécessairement. Le dernier mouvement du livre porte ainsi sur le rapport entre symbole et histoire. Les images ne flottent pas hors du temps, car elles sont reprises, modifiées et parfois sécularisées. Mais leur capacité à se réactiver explique leur longue durée. Cette approche permet de lire les traditions judéo-chrétiennes non comme isolées des autres mondes religieux, mais comme des réélaborations singulières de schèmes symboliques plus vastes. En conclusion, images et symboles convient particulièrement aux lecteurs de l'histoire des religions, anthropologie culturelle, philosophie du symbole et études comparées des mythes. Il intéressera aussi les personnes qui cherchent à comprendre pourquoi des images anciennes continuent de structurer des récits, des pratiques et des imaginaires modernes. En revanche, le livre demande de la concentration son vocabulaire spécialisé. Ses comparaisons entre traditions et son recours à des références religieuses variées le rendent moins immédiatement accessible qu'une introduction générale au mythe. Le bénéfice intellectuel principal réside dans l'apprentissage d'une lecture relationnelle des symboles. Au lieu de demander ce que signifie isolément une eau, un arbre, un nœud ou un centre, Eliade invite à examiner les liens entre images, rites, récits, cosmologie et expérience humaine. Cette méthode donne une profondeur historique et existentielle à des motifs que l'on réduit souvent à des ornements ou à des codes, par rapport à des ouvrages uniquement descriptifs sur les religions ou à des recueils de mythes. Ce livre se distingue par son effort pour dégager une grammaire du sacré à travers des études ciblées. Sa force est de faire dialoguer les matériaux sans les traiter comme de simples curiosités exotiques. Sa limite, souvent discutée dans les études religieuses contemporaines, tient à la place importante accordée aux structures universelles, parfois au détriment des contextes historiques précis. Lu avec cette réserve, il demeure une porte-entrée majeure dans la pensée de Eliade et dans les débats sur la portée des symboles religieux. Si vous souhaitez soutenir Mircea Eliade, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.